Donc verset 4 du chapitre 13. « Eux donc, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là ils embarquèrent pour Chypre. » On ne sait pas trop ce qui les a motivés dans leur direction. Une hypothèse, c'est que Barnabas avait été élevé à Chypre et donc ils se sont dit « on va aller chez toi, on sait qu'il y a besoin. » Tu vas connaître les gens, on va essayer d'aller voir si Dieu peut nous utiliser là-bas. On ne sait pas exactement ou si l'Esprit leur a dit d'aller exactement à Chypre. Ici, on voit qu'ils sont envoyés par le Saint-Esprit. Donc, ils vont de Antioche à Séleucie, c'est un petit peu d'aller à la ville portuaire. Ils se rapprochent de la côte pour aller là où il y a un port. Ils embarquent et ils traversent la mer. Pour aller à Chypre. Je ne sais pas s'il s'est passé grand-chose en Séleucie. Ils arrivent à Salamine. Ils annoncent la parole de Dieu dans les synagogues. Et là encore, on n'a pas forcément de récit à savoir s'ils ont eu de la réussite, comment les gens ont réagi, on ne sait pas. Ils profitent, et on va le voir ça dans toute la suite du livre des Actes, d'une tradition dans les synagogues juives qui était de laisser les hommes... A priori, les hommes anciens et érudits qui étaient de passage, on leur laissait souvent un moment où ils pouvaient s'exprimer, s'ils avaient quelque chose à partager dans la synagogue. Et c'est pour ça que Paul, dans tout son ministère, va souvent se servir de cette porte ouverte dans le service religieux dans les synagogues pour annoncer l'évangile. On va le voir plus loin dans sa prédication à Antioche de Pisidie. Dans la deuxième moitié de ce chapitre. Donc ils arrivent à Salamine, qu'on voit sur la carte, mais sur le côté est de l'île de Chypre. C'est le trait noir dans la carte en bas, c'est les grosses flèches noires sur la carte au-dessus. Ils traversent l'île jusqu'à Paphos. Là, il y a un certain magicien, un faux prophète juif du nom de Bar-Jésus qui est avec le proconsul Sergius Paulus qui était un homme intelligent. Et donc ce Sergius Paulus est curieux, veut savoir ce que Paul et Barnabas ont à dire. Donc, il leur demande de venir leur parler. Paphos, d'après les historiens de cette époque-là, était une ville qui était connue pour son immoralité, pour une certaine obscurité spirituelle, avec un lien, encore une fois, entre une religion et de l'immoralité sexuelle. Et on voit que là où il y a des opportunités, là où il y a des possibilités pour Paul et Barnabas, il y a de l'opposition. Et ce personnage, ce magicien, ce faux prophète, qui s'appelle Elimas ou Bar-Jésus, c'est intéressant de noter son nom de Bar-Jésus qui veut dire littéralement « fils de Jésus ». Jésus, à l'époque, était un nom assez courant parmi les Juifs, le peuple juif. Donc, ça ne veut pas forcément dire qu'il avait un lien avec le Jésus sur lequel on croit. Et c'est intéressant de noter que Luc essaie d'éviter d'utiliser ce nom, en quelque sorte, en disant, bon, ben, on va l'appeler Elimas, c'est pas Bar-Jésus, parce qu'il n'a rien d'un fils de Jésus. Et il leur résiste. Et il cherchait à détourner de la foi le proconsul. Là, en quelque sorte, c'est un bon signe, parce que de manière normale, dans le monde spirituel, dans le monde dans lequel nous vivons, en général, quand il y a des opportunités de servir Jésus, de toucher des gens, il y a de l'opposition. Satan, si on peut lui attribuer des qualités, c'est qu'il s'arrête jamais et qu'il est toujours empressé de s'opposer à toutes les avancées de Dieu et de l'Évangile. Le grand théologien et évangéliste Spurgeon a dit que finalement c'était presque nécessaire, que c'était comme un cerf-volant qui a besoin d'avoir un vent opposé pour pouvoir s'élever dans les airs. C'est possible. Mais il y a cette idée, cette opposition qui est assez naturelle quand les gens sont touchés par l'Évangile, par le Seigneur. Et là, Elimas essaye de s'opposer à Paul et Barnabas, et Paul réagit de manière assez violente en lui disant « Toi qui es plein de toute ruse et de toute fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu pas de détourner les voies droites du Seigneur ?» Déjà, il l'attaque violemment, verbalement. Et ensuite, il lui dit « Bon, ben, toi, tu vas être aveugle. » On peut se demander si en se rappelant sa propre expérience, il ne s'est pas dit « Ça, c'est ce qui attend les gens qui s'opposent à Jésus. On leur ferme les yeux. » Ils deviennent aveugles et il a dit « Bon, ben, toi aussi, tu vas être aveugle. Toi aussi, tu te révèles comme moi, je l'étais. Bon, ben, tiens. » Et on voit qu'Elimas est tout de suite dans aveugle. Il tourne ça et là pour chercher des gens pour le guider. On pourrait se dire, est-ce que Paul n'y va pas un peu fort, finalement?
Il a connu de mauvais titres aussi, le par Jésus.
Oui.
Les magiciens, faux prophètes.
Mais par rapport à nos églises aujourd'hui, est-ce que quand quelqu'un vient avec de mauvaises intentions ou de mauvaises doctrines ou de mauvais enseignements, si quelqu'un lui dit « Dégage d'ici, menteur, voleur, homme qui loup qui veut tout dévorer, enfin, fils du diable, ennemi de toute justice », il le défonce quand même, là. Enfin, verbalement, là, il le démonte. Là. Et nous, dans l'Église, on a quand même souvent, de nos jours, malheureusement, alors heureusement dans un certain sens, mais malheureusement souvent on est peut-être trop tolérant et peut-être par moments trop récalcitrant à agir avec sévérité face à des gens qui ont une mauvaise doctrine et qui ont un agenda pour détourner d'autres personnes de Jésus. Et si dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, il y a des gens qui, entre guillemets, prennent cher, qui ont toujours des mots extrêmement violents prononcés contre eux, c'est des gens qui non seulement refusent eux-mêmes la vérité, mais qui ont un agenda et qui veulent empêcher que d'autres se décident pour la vérité. D'une certaine manière, Dieu, il veut bien accepter qu'on se décide à se faire tout seul à harakiri dans son coin spirituellement et qu'on décide de le rejeter. Mais si en plus on essaie de se poser entre lui et quelqu'un qui veut venir à lui, dans toute la Bible, il n'y a que des paroles très dures à l'encontre de ces gens, que des jugements très sévères. Et pour nous et pour les responsables d'église de nos jours, je pense que ça doit être un exemple à suivre. Alors après, il y a un certain... Peut-être pas au niveau de l'aveuglement ou...
Non, mais il est rempli d'Esprit Saint. Je veux dire, il faut quand même savoir que c'est le plan de Dieu qui se réalise depuis le début.
Oui, mais disons qu'il
a... Il a suivi le protocole, comme tu dis, ils ont prié, ils ont jeûné. Enfin, je veux dire.
Mais disons que quelqu'un.
Le résultat, c'est un aboutissement. Enfin, on ne peut pas le stopper.
Et puis, il y a aussi les rendus.
Ah oui. Non, mais ce que tu dis, pour tout le monde.
Mais ce que je veux dire, c'est que quand on a pesé le pour et le contre et qu'il y a quelqu'un dans l'Église qui a un mauvais agenda, qui est en train d'annoncer des choses fausses qu'on considère comme des choses sur lesquelles on doit être dogmatique. Encore une fois, il y a des choses sur lesquelles on doit faire attention de ne pas être dogmatique parce que c'est difficile par rapport à la Bible de décider les choses. Si quelqu'un remet en question Jésus comme étant Dieu, ou remet en question, je ne sais pas, sa résurrection, et essaie de le dire ou de l'annoncer aux gens dans l'Église, l'Église, et surtout les responsables d'Église, ont une responsabilité vis-à-vis de Dieu de dire à ces gens,
tais-toi, mais bien sûr, mais Pierre, tu n'as jamais laissé parler des gens comme ça.
Oui, mais malheureusement, dans les églises, c'est pas toujours le cas, et pas toujours.
Pour reconnaître la fausse doctrine, il faut connaître la vraie. Et si dans certains milieux d'église, on n'étudie pas vraiment la Bible, après tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, et c'est mélangé. Un autre aspect, c'est aussi le fait que Satan, quand il conduit à pécher, il attaque notre confiance pour justement dire aux gens ce que vous faites est mal. Il est là à nous dire oui, mais tu vas dire ça, mais qui es-tu pour juger? Tu as des compromis dans ta vie. Et je crois que, comme tu disais, Élodie, le fait que vraiment ils étaient consacrés, remplis du Saint-Esprit, en mouvement. Il y avait une dynamique qui faisait que vous ne pouvez pas tolérer le compromis.
Mais c'est important aussi de noter que c'est pas Paul, dans ses paroles sévères contre Élimas, sa réaction violente est motivée par l'amour pour le proconsul. Il se dit, là il y a le Élimas, lui il s'est décidé, d'accord, mais il y a le proconsul là qui est en jeu. Il y a le salut potentiel de cette personne qui est en jeu. Et donc pour le sauver lui, il réagit violemment, mais c'est avec cette optique de sauver Sergius Paulus. Et on voit que quand le proconsul voit ce qui arrive, l'assurance de Paul quand il annonce le fruit du péché d'Élimas, son aveuglement, et puis la doctrine du Seigneur qui le marque, l'amour, le sacrifice de Jésus pour lui, il est frappé par la doctrine du Seigneur et il croit.
Alléluia.
C'était intéressant, j'en discutais un petit peu avec Fedosi et Elodie, mais quand je suis allé en vacances à Chypre et je suis resté à Paphos, et en fait il y avait les ruines, il y avait tout un site archéologique où on peut aller visiter la zone de là où le proconsul habitait, l'endroit à Paphos où il y avait la forteresse et la garnison romaine, toute la zone romaine dans la ville. Et c'était vraiment intéressant de pouvoir aller là et de se dire, mais il y a vraiment les murs, ils ont des plaques. Ça, c'était la maison du proconsul, ça, c'était la forteresse, ça, c'était le... Et tu te dis, c'est solide, quoi. Il y a des trucs qui restent. Verset 13. De Paphos, Paul et ses compagnons firent voile pour se rendre à Perge en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. De Perge, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Ils entrèrent dans la synagogue le jour du sabbat et s'assirent. Si on veut regarder sur la carte, on voit qu'ils partent de Paphos sur Chypre en bateau. Ils traversent une partie de la Méditerranée pour monter au nord vers la Turquie, qui serait la Turquie actuelle. On voit marqué un territoire de Pamphylie sur la côte avec la ville de Perge. Dans la carte en bas, on a où ? Vous, c'est la carte qui est en bas, oui. Et qu'ensuite, ils montent au nord à travers un territoire qui s'appelle la Pisidie et qu'ils arrivent à Antioche. Donc, il y avait une autre ville qui s'appelait Antioche. Après les multiples Hérodes, on a différents Antioche. Antioche, il est à l'ouest. Il est à l'est. Là où ils ont embarqué, en fait. Et donc, ils entrent dans la synagogue le jour du sabbat et ils s'assoient. Entre-temps, Jean s'était séparé d'eux, on peut le noter. Je ne sais pas pourquoi. Il est retourné à Jérusalem. C'est que Dieu va l'utiliser puisqu'il va utiliser, il va écrire son évangile. Mais il se sépare d'eux. Et là, ils entrent dans la synagogue le jour du sabbat et ils s'assoient. Là, on voit qu'après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire, « Frères, si vous avez quelques paroles d'exhortation pour le peuple, parlez. » Donc ici, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En général, il y avait un protocole dans les synagogues. Il y avait une première partie avec des prières. Ensuite, une lecture d'un des textes de la loi, les 5 premiers livres de la Bible. Et ensuite, une lecture d'un des textes des prophètes. Et puis, un temps pendant lequel des hommes... En général, les hommes érudits ou âgés pouvaient s'exprimer concernant soit ces écritures, soit ces lectures, soit d'autres choses. Et on peut supposer que Paul n'a jamais refusé une telle offre. Il se lève, fait signe de la main, verset 16. Vous, Israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères et fait grandir ce peuple pendant son séjour au pays d'Égypte, puis l'en fit sortir par son bras puissant. Il les supporta environ 40 ans dans le désert, et après avoir exterminé 7 nations au pays de Canaan, il les mit en possession de leur territoire. Ce qui dura environ 450 ans. Après cela, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel, puis ils demandèrent un roi. Et Dieu leur donna... pendant 40 ans, Saul, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Après l'avoir écarté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est de sa descendance que Dieu, selon sa promesse, a fait naître Jésus comme sauveur pour Israël. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Et lorsque Jean achevait sa course, il disait « Je ne suis pas moi ce que vous supposez, mais voici, il vient après moi, celui dont je ne suis pas digne de détacher les sandales de ses pieds. Frères, vous les fils de la race d'Abraham et ceux qui parmi vous craignent Dieu, c'est à nous que cette parole de salut a été envoyée, car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, ainsi que les paroles des prophètes qui sont lues à chaque sabbat. Ils les ont accomplies en le jugeant. Sans trouver aucun motif de condamnation à mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Ils accomplirent ainsi tout ce qui est écrit de lui, le descendirent de la croix et le déposèrent dans un tombeau. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il a été vu pendant de nombreux jours par ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous, nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit au psaume 2, « Tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. » Qu'il l'ait ressuscité d'entre les morts de sorte qu'il ne retourne pas à la corruption, c'est ce qu'il avait dit, « Je vous donnerai les choses saintes de David, celles qui sont dignes de foi. » En conséquence, il dit ailleurs, « Tu ne laisseras pas ton saint voir la corruption. » Or David, après avoir dans sa génération servi le dessein de Dieu, est décédé, a été réuni à ses pères et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Vous donc, frères, sachez-le bien, par lui, le pardon des péchés vous est annoncé, et en lui, quiconque croit est justifié de tous ceux dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Voyez, vous qui êtes plein de mépris, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Juste une note qui m'est revenue, dont j'ai oublié de parler, c'est à propos des deux prénoms de Paul. Dans certains textes, on voit qu'il s'appelle Saul, et dans certains textes, on voit qu'il s'appelle Paul. Ayant été élevé dans une famille qui était à Tarse, dans une culture grecque, mais en même temps juive, il avait deux prénoms, un prénom juif et un prénom latin ou romain. Et donc son prénom juif, c'était Saul, et son prénom romain, c'était Paul. Et donc dans les écrits, d'une certaine manière, c'est plus naturel de voir, à partir du moment où on commence à être dans le ministère aux non-juifs, il y a aussi cette transition de Saul vers Paul. D'autres commentateurs notaient que Saul était un nom juif qui avait une connotation de grand homme, de roi, du roi Saul, qui était un homme grand et beau et fort et sage, etc. Alors que Paul, en latin, a priori, ça voulait dire petit. Et Paul va aussi opter plutôt pour ce prénom-là, lui qui se considérait comme il le dit lui-même de sa bouche, comme le moindre des croyants. Et c'est pour ça qu'on a au verset 9 dans le chapitre 13, là ici marqué Saul, appelé aussi Paul. Il n'y a pas vraiment eu de... On pourrait penser que c'était Dieu qui lui avait donné un autre nom. Mais en fait, non, a priori, c'était juste une tradition d'avoir été élevé comme il avait été élevé avec les deux cultures. Ici, on a donc l'enseignement ou le prêche peut-être le plus long de Paul qui est enregistré dans le livre des Actes. Il s'adresse aux Juifs et aux hommes intéressés par la religion juive qui étaient aussi présents. Il retrace rapidement l'histoire d'Israël en montrant que le point culminant de l'histoire d'Israël, c'était Jésus, montrant que dans l'histoire, que l'histoire était utilisée par Dieu, était dirigée par Dieu avec un objectif, c'est l'arrivée de Jésus. Il parle ensuite de Jean comme quelqu'un qui avait vraiment compris qui Jésus était. Puis il se contraste avec le peuple juif et les dirigeants juifs qui ont refusé Jésus. Il termine en prêchant Christ ressuscité, ressuscité par Dieu. Il montre ce que les hommes ont fait et il y a cette phrase, verset 30, où il dit « Mais Dieu l'a ressuscité ». Cette opposition, vraiment les hommes qui agissent, mais Dieu le ressuscite. Dieu est le plus fort, encore une fois. On voit encore le témoignage. Il y en a beaucoup qui l'ont vu après sa résurrection. Cette résurrection qui prouve qui est en accord avec les prophètes et la loi dans l'Ancien Testament, qui s'accorde avec les paroles de différents passages. Ensuite, il dit qu'on a le pardon des péchés par lui, que quiconque croit est justifié, et qu'on ne peut pas être justifié par la loi de Moïse. On n'est pas seulement pardonné en croyant à Jésus, mais on est justifié. C'est pas juste on nous a enlevé la dette et nous, on nous a remis à zéro, mais c'est on nous a enlevé la dette et on nous a donné encore du crédit. C'est cette idée de grâce. C'est pas seulement de ne pas recevoir ce qu'on mérite, mais c'est de recevoir quelque chose qu'on ne mérite pas. Et ça s'accorde très bien avec ce qu'on voit dans Éphésiens 2, versets 8 et 9. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et c'était ce que faisait le peuple juif avec la loi de Moïse. Ils essayaient de se glorifier en disant que eux, ils respectaient la loi de Moïse et c'était grâce à leur grande piété et à leur respect de la loi qu'ils arrivaient à être sauvés. Et lui, il dit, c'est pas ça qui vous sauve, c'est la foi en Jésus. C'est une grâce que Dieu vous fait. Et cet enseignement est tellement, tellement proche de ce qu'on peut lire chez Pierre ou dans l'enseignement d'Étienne, qu'on sait que Paul avait entendu. On peut se dire qu'il avait dû méditer longtemps sur ces choses qu'il avait entendues de la part de Pierre et d'Étienne, en plus de ce qu'il a reçu après. Et il y a vraiment une cohésion entre les différents hommes et les différents enseignements qu'on voit dans le livre des Actes. Ils annoncent le même Jésus. Ils annoncent de la même manière. Il n'y en a pas un qui a sa manière de voir les choses et de comprendre les choses et l'autre qui a une manière de comprendre les choses. Ils prêchent tous Jésus crucifié puis ressuscité par Dieu en accord avec la loi et les prophètes, et que c'est grâce à la foi en lui qu'on est sauvé. Regardons la réponse du peuple. Alors sortis, on les invitait à parler de ce sujet le sabbat suivant, et à l'issue de la réunion, beaucoup de juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretenaient avec eux et les persuadaient de rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville s'assembla pour entendre la parole de Dieu. Les juifs, voyant les foules, furent remplis de jalousie, et ils contredisaient avec des blasphèmes ce que disait Paul. Paul et Barnabas leur dirent alors ouvertement, « C'est à vous d'abord que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la repoussez et que vous jugez pas digne de la vie éternelle, voici nous nous tournons vers les païens. Car ainsi nous l'a prescrit le Seigneur, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Les païens se réjouissaient en entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. La parole du Seigneur se répandait dans le pays tout entier. Mais les Juifs excitèrent contre eux les femmes distinguées qui étaient prosélytes et les notables de la ville. Ils soulevèrent une persécution contre Paul et Barnabas et les chassèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et allèrent à Iconium. Les disciples, quant à eux, étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. Beaucoup de gens se montrent intéressés. On voit que certains avaient cru, puisque Paul et Barnabas les encouragent à rester attachés à la grâce de Dieu. On peut supposer qu'il y en avait qui avaient cru à Jésus. C'est quelque chose de bon pour nous de rester attachés à la grâce de Dieu. De pas penser qu'à un moment de notre vie, on est arrivé à un certain niveau, on a mérité quelque chose. C'est toujours un danger, quel que soit notre position et notre âge dans la foi chrétienne. Et là, il est marqué que toute la ville se réunit pour entendre la parole de Dieu. Et face à ce succès de Paul, les dirigeants juifs sont jaloux. Encore une fois, une mauvaise motivation avec une jalousie, une envie d'être populaire aussi, en quelque sorte. Le peuple ne les écoutait plus eux, mais écoutait Paul et ça les énerve. Donc plutôt que de chercher à savoir si Paul et Barnabas annoncent quelque chose de bon ou pas, ils sont énervés et ils s'opposent à eux, s'opposent à l'annonce de l'évangile. Ils essaient de contredire ce que dit Paul, les blasphèmes ou, dans d'autres traductions, des injures. Peut-être qu'ils injuriaient Jésus, qu'ils blasphémaient contre Jésus. Il y avait sans doute aussi, et on va voir leur réaction violente après, il y a ce refus d'accepter que les non-juifs soient acceptés aussi face à Dieu. Ils avaient cette fierté, cette envie d'être séparés, d'être le peuple de Dieu, d'être spéciaux, mais de pas accepter les non-juifs. On l'avait dit la dernière fois qu'ils les détestaient. Ils voulaient garder cette division. Ils ne voulaient pas être considérés comme égaux avec les non-juifs. Et ça, c'est quelque chose qui peut nous affecter aussi. Jésus va changer nos relations avec les gens autour de nous, va nous mettre à l'épreuve sur comment on considère les gens, comment on les traite, comment on les considère. Et si on n'est pas prêt à accepter ce changement, ça peut poser des problèmes dans notre relation avec Jésus, parce que lui veut qu'on change notre manière d'être avec les gens autour de nous. Et Paul, là, les reprend, et on voit encore la transition, encore ce refus, encore ce passage des Juifs qui rejettent Jésus. Et donc, Paul et Barnabas et les apôtres qui se tournent, l'Église qui se tourne vers ceux qui veulent entendre. Verset 46, « C'est à vous d'abord que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la repoussez et que vous ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. » Vous rejetez votre privilège, c'était vous qui aviez le droit premièrement de l'entendre. Mais maintenant, on va se tourner vers les non-juifs. Et on voit que les non-juifs répondent avec joie. Ils sont heureux. Les juifs leur faisaient croire que Dieu, en quelque sorte, est détesté, qu'il fallait qu'ils deviennent juifs pour pouvoir être acceptés. Et encore, on les considérait un petit peu avec mépris. Il y avait vraiment une séparation, même pour les non-juifs qui souhaitaient venir à Dieu. Et là, Paul est en train de dire, vous le rejetez, mais nous, on se tourne vers les non-juifs et vous avez pleinement le droit d'être reçus par Jésus, par Dieu. Il vous aime aussi. Et ils se réjouissent et glorifient la parole du Seigneur. Paul montre aussi de la sagesse en évitant de perdre trop de temps avec les cœurs endurcis, même si tout au long de son ministère, il va continuer à prier pour les Juifs et à leur parler dès qu'il le peut. Il ne s'attarde pas, mais se tourne vers ceux qui veulent entendre. Donc il y a un petit réveil dans la ville, et quand il y a un réveil, Satan se réveille souvent peu après. Et Paul et Barnabas doivent quitter la ville. Et ils se servent d'un symbole juif pour leur montrer qu'ils rejettent Dieu, en prenant leurs sandales et en les secouant pour dire on veut rien avoir avec vous, on veut tellement rien avoir avec vous qu'on veut même pas emporter de la poussière de votre ville avec nous. On veut vraiment tout laisser de vous derrière. Alors, on peut se dire que ça a été dur pour Paul et Barnabas avec ces croyants, ces personnes qui avaient répondu favorablement. Ils auraient peut-être eu envie de rester, de les encourager, de leur enseigner les choses. Mais on voit que les disciples sont remplis de joie et de Saint-Esprit, que Dieu quand même est au-dessus de ça. Ils sont remplis de joie malgré les circonstances extérieures.
Jésus avait donné la même recommandation à ses apôtres quand il les a envoyés.
Et en fait, c'était a priori un symbole, c'était quelque chose que le peuple juif faisait quand ils entraient dans une ville non juive, dans une ville de non juifs. en partant, il secouait la poussière pour dire on veut rien, on était là, mais en partant, on laisse tout derrière nous, on ne veut pas être associé à vous, on laisse même la poussière de votre ville derrière nous, vous n'êtes pas, on ne vous accepte pas. Quoi. C'est vraiment un signe fort dans la culture juive, et c'était notamment Jésus qui avait dit d'utiliser cette idée-là. Voilà. Des questions ? Des remarques ? Et sinon, on a terminé.
Oui. Juste le fait que les disciples n'avaient pas le même appel. Et le fait que nous aussi, je pense, même la Bible nous dit qu'on n'a pas les mêmes. Il y a plusieurs ministères. Et le fait que là, Dieu leur a montré ce pourquoi il les a appelés et les a dirigés. Pour moi, ça m'encourage parce que je demande en ce moment. Donc, c'est encourageant de savoir que Dieu monte, clairement. On doit faire.
Verset 47 parle de l'association de Paul. Okay. Non, c'est Soleil des Nations. Il y avait, dans les termes des païens, il y avait les prosélytes, c'est ceux qui se convertissaient. Il y avait la première étape, c'est ceux qui craignaient Dieu. L'expression, c'est pas seulement une façon de dire qu'il y en avait qui respectaient Dieu, mais c'était vraiment une étape. On était païens quand on commençait à craindre Dieu, et après on devenait prosélytes quand on devenait chrétiens.
Pas d'autres questions, de commentaires. On va s'en tenir à ça pour ce soir. Pour la prochaine fois, le chapitre 14 et 15 jusqu'au verset 35. D'accord. Jusqu'à dans le chapitre 15, c'est quand. Vers la fin du chapitre, Paul et Barnabas séjournèrent à Antioche, enseignant et annonçant avec beaucoup d'autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Là, il reste un petit passage, il reste. C'est 14 et 15. Je garde le deuxième voyage missionnaire de Paul pour. On va le faire d'un trait, la séance d'après. Voilà.